question en bas de votre écran. Et surtout, n'hésitez pas à les poser. Nous, moi, je les relaierai. Donc, juste pour rappeler un peu ce qu'est la revue Biophile. Donc, c'est la revue de l'agriculture bio en France. Donc, revue indépendante, technique et transversale qui accompagne maintenant depuis 22 ans l'essor de l'agriculture bio. Donc, pour échanger avec nous aujourd'hui sur la thématique des poules pondeuses, on a réuni quatre professionnels du sujet. Donc, Marie Guillot, qui est directrice du SYNALAF, le syndicat national des labels avicoles de France. Denis Paturel, qui est éleveur de pondeuses depuis 1993. Il me semble que c'est son fils maintenant qui a repris l'exploitation. Il est aussi membre du SYNALAF. François Boucher, qui est responsable aliments biologiques au moulin du Poher, donc moulin 100% bio à Carré, dans le centre Finistère. Et Sarah Poirot, chef de produit volaille au moulin du Poher également. Donc, avant de laisser la parole aux intervenants, j'aimerais poser le cadre du débat en rappelant quelques données qui viennent principalement de l'Agence Bio sur la filière des pondeuses bio. Donc, l'œuf bio, c'est le produit phare du marché bio. C'est d'ailleurs le produit d'appel. Selon les derniers chiffres d'ailleurs de l'Agence Bio, les ventes ont progressé de 22% en 2019. Quasiment deux tiers des œufs bio sont commercialisés en grande distrie, un tiers en magasin spécialisé et le reste en direct. 99% des œufs sont produits en France, donc pas d'importation. La nouvelle réglementation européenne met en place de nouvelles règles. Donc, l'application, on ne sait pas exactement si elle va être maintenue ou reportée, mais en tout cas, elle génère quelques inquiétudes dans la filière. Et donc, il faut malgré tout se préparer. Et c'est justement l'objectif de ce webinaire, de faire le point sur ces évolutions, ce que ça va entraîner comme changement pour les élevages de pondeuses bio, sur le plan de l'alimentation, des bâtiments, de l'élevage des poulets bio. Donc, nos intervenants vont éclaircir ces points qui peuvent être flous. Et on va commencer donc avec Marie Guillot. Donc, vous êtes directrice du SYNALAF, membre également de la commission réglementation de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Est-ce que vous pourriez nous présenter dans les grandes lignes la nouvelle réglementation et leurs implications.
Oui, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran puisque j'ai prévu un support. Voilà, est-ce que vous le voyez?
Parfaitement, oui.
Alors, déjà pour commencer, je présente ma structure, le SYNALAF, rapidement. Donc, le SYNALAF a été créé en 1967. Sa mission, c'est de défendre et promouvoir les productions avicoles, donc en chair, en œufs, label rouge et biologique, et le mode d'élevage en plein air. Donc, nos adhérents, ce sont en bio, soit des groupements, des OP, des entreprises. Et en label rouge, ce sont les organisations qui détiennent les cahiers des charges. Et donc, on représente la grande majorité des filières organisées en bio en France. Nous ne représentons en revanche pas les indépendants. Et nous travaillons avec les interprofessions, notamment le CNPO en œuf. Et sur les sujets bio, donc nous sommes un lieu d'échange entre les opérateurs sur les sujets techniques, économiques, et en particulier depuis quelques années, on suit de près la nouvelle réglementation avec les pouvoirs publics français et européens pour qu'elle soit la plus adaptée possible à la réalité du terrain. Bon, j'ai fait une carte avec nos adhérents pour que vous situiez. Avant de commencer sur la réglementation, on m'avait demandé de situer la production, le marché des œufs bio. Donc, j'ai juste deux diapos pour rappeler que c'est un secteur en forte croissance en France. En 2019, on avait 7,7 millions de pondeuses bio en France, avec des effectifs en hausse de 18% par rapport à l'année d'avant. Quasiment 2 300 exploitations certifiées bio. Et ça, ce sont des chiffres de l'agence bio. Les effectifs de pondeuses bio en France représentent 16% des effectifs de pondeuses. À côté de ça, le plein air, c'est 18%. Donc, on a quasiment les mêmes effectifs en bio qu'en plein air. On a 5% de pondeuses label rouge, 12% au sol dans des bâtiments fermés et 49% en cage. Donc, le bio n'est vraiment pas négligeable du tout dans la production de pondeuses en France. En termes de consommation, donc, vous avez déjà donné des chiffres. Là, c'est un panel IRI, donc c'est uniquement dans les hyper supermarchés. Il n'y a pas les commerces spécialisés, mais le bio y est important, donc c'est 20%. Et en effet, c'était en hausse de 22% en 2019. Et puis, sur les premiers mois de l'année 2020, d'après un autre panel qui, là, regarde tous les achats d'œufs en France, on est à plus 24%. Par rapport à 2019, sachant que le total des œufs est à plus 15% avec l'effet Covid un peu particulier. Alors ça, c'est au niveau français et au niveau européen. Ce qui est vraiment notable, c'est que la France est le premier pays producteur d'œufs bio de l'Union européenne. Vous pouvez le voir sur le graphique en dessous. La France est en orange, un peu devant l'Allemagne. Et ensuite, les autres pays sont assez loin. On a à peu près 24 millions de pondeuses bio dans l'Union européenne. Bon, c'était des chiffres 2018, donc ça a fortement augmenté. Et France et Allemagne représentent quasiment 50% du cheptel européen en pondeuses bio. Donc, c'est des pays très importants et assez influents concernant cette production. Donc, voilà pour les données. Donc ensuite, j'ai préparé quelques diapos qui présentent, je vais essayer d'être claire, les principales évolutions de la réglementation pour le secteur des œufs bio. Alors, les nouveaux textes de référence, donc c'est la réglementation bio a été révisée, la révision a été lancée en 2014 et l'objectif du commissaire de l'époque était d'avoir moins de dérogations en bio et plus de production bio. Et d'ailleurs, on va le voir avec ce que je vais présenter. C'est vraiment le cas pour ce qui concerne la filière œuf. Donc, on a deux textes européens de référence, un règlement de base qui a été voté en 2018 et un règlement d'exécution qui est très important puisqu'il le complète vraiment avec des règles précises de production, notamment concernant les pondeuses, les poulettes. Et ce règlement, en revanche, a été voté seulement en mai 2020. Pour une application normalement au 1er janvier 2021, ce qui fait que ça fait depuis très peu de temps qu'on connaît les règles définitives, notamment un des points problématiques de cette filière, c'est passer avec des poulettes bio. Donc c'est un peu compliqué en quelques mois d'arriver à tout appliquer et c'est notamment pour cela et puis avec la crise du Covid que beaucoup ont demandé un report de l'application. Il est très fortement probable que l'application soit reportée à 2022. Ceci dit, ça n'est pas encore validé au niveau européen, même si des journaux l'écrivent. Moi, je préfère pas dire que c'est fait pour l'instant. On le saura prochainement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un report, a priori, toutes les dates d'application seront décalées d'un an. Donc, par rapport à tout ce que je vais présenter là, il faudra rajouter un an à chaque fois. Et un autre document de référence qui est très important au niveau français, c'est le guide de lecture INAO qui sera mis à jour. Donc l'INAO, c'est l'institut français qui gère les signes de qualité, dont la production bio. La réglementation bio, la base, c'est la réglementation européenne. Personne n'a le droit de la modifier, d'y ajouter des éléments. En revanche, parfois, elle comporte des éléments qui ne sont pas très clairs. Et donc le guide de lecture de l'INAO précise la lecture, la compréhension de ces points-là, mais normalement ne va pas plus loin. Alors, là, je vais présenter donc les principales évolutions concernant d'abord les poussins, puis les poulettes. Concernant les poussins, je vais aller assez vite parce qu'il y a un fort changement, mais qui n'est pas d'application immédiate. Donc, la réglementation actuelle ne donne pas d'obligation d'utiliser des poussins bio. C'est une dérogation qui permet d'utiliser des poussins conventionnels de moins de 3 jours. Et il faut appliquer une période de conversion, c'est 6 semaines en filière ponte. La nouveauté, c'est qu'il faudra utiliser des poussins bio, mais seulement à partir du 1er janvier 2036. Donc, on a 15 ans pour préparer cela. Ceci dit, ça va être un travail important, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et puis, entre-temps, en 2028, la Commission européenne doit étudier la disponibilité des poussins bio en Europe et, en fonction des résultats de cette étude, pourrait raccourcir ou prolonger le délai d'obligation d'utiliser des poussins bio. Néanmoins, si des producteurs voulaient déjà commencer à faire des repros bio pour avoir des poussins bio, la nouvelle réglementation définit des critères de production. Donc, je ne vais pas les détailler. C'est des critères assez techniques, avec notamment un accès au plein air obligatoire et un vrai plein air, pas seulement des vérandas, avec 4 mètres carrés de parcours par reproducteur. Donc, il faut le vouloir pour y aller, mais voilà, c'est possible. Une nouveauté importante et là qui s'applique très rapidement et vraiment très importante pour la filière pondeuse, c'est tout ce qui concerne les poulettes, puisque jusqu'à présent, on n'avait pas d'obligation ni de définition des poulettes biologiques, ce qui fait qu'il y avait des applications très différentes selon les États membres. Et Vitavie, d'ailleurs, avait fait une étude l'an dernier pour connaître ces applications différentes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en France, ce qui était fait, c'est que les poulettes bio recevaient un aliment bio. Il y avait une limitation des traitements, mais pas d'accès au plein air, alors que dans d'autres pays, il y avait déjà un accès au plein air. La grande nouveauté, qui est assez une révolution pour la filière œuf, c'est l'obligation d'avoir des poulettes bio à partir du 1er janvier 2021, ou alors ce sera 2022 si c'est reporté d'un an. Il y a beaucoup de critères de production qui sont définis, dont l'accès au plein air obligatoire. Ça va entraîner énormément de changements pour les éleveurs, puisque les éleveurs de poulettes vont devoir respecter l'ensemble des règles de la réglementation bio, c'est-à-dire s'ils ont des cultures, les passer en bio, justifier d'un épandage des effluents sur des terres bio, etc. C'est pas rien du tout. Les critères de production définis dans la réglementation, c'est 10 000 poulettes maximum par compartiment. On n'a pas de limite de taille de bâtiment et là, c'est bien par compartiment. La densité intérieure, c'est 21 kg par mètre carré de surface utilisable, sachant qu'en France, on a réussi à élaborer un tableau qui a été validé par l'INAO qui donne une correspondance en nombre d'animaux. Donc, c'est plus facile pour les éleveurs et puis pour la contrôlabilité de ce critère par les organismes certificateurs. Il y a l'obligation aussi de perchoir ou alors de plateforme, au moins 10 cm de perchoir par poulette ou de 100 cm carrés par poulette. C'est pas négligeable, ça fait quasiment 2 km de perchoir pour un bâtiment de 1200 m². Et puis, il y a l'obligation de plein air, donc c'est avec au moins 1 mètre carré de poulette dès le plus jeune âge et au moins un tiers de la vie de la poulette. Alors, comme c'est des règles qui sont nouvelles et très contraignantes et qui demandent parfois du temps d'application, et d'autant plus que le règlement a été connu très tard, on a négocié des périodes de transition pour pouvoir appliquer ces éléments. Donc, la réglementation prévoit 8 ans de transition pour avoir le temps d'appliquer la nouvelle densité intérieure et aussi la surface extérieure de parcours. Donc, les éleveurs ne sont pas obligés de respecter les critères que j'ai décrits précédemment pendant ces 8 ans. Et puis, il y a une période de transition de 3 ans pour avoir le temps d'appliquer les exigences concernant le perchage, les perchoirs, les plateformes. En revanche, ce qui est très particulier, c'est que c'est valable uniquement pour les bâtiments poulettes déjà existants en bio et pas pour les tout nouveaux bâtiments. Et pour cela, alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais faut arriver à le comprendre pour pouvoir dérouler la suite. C'est que les bâtiments qui veulent pouvoir appliquer ces périodes de transition doivent déjà être certifiés pour la production bio avant le 31 décembre 2020, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Et ça veut dire avec notamment un accès au plein air. Ce qui est fou, c'est que ben, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'accès au plein air pour les bâtiments poulettes bio en France. Donc, c'est un vrai changement à faire très rapidement pour pouvoir accéder à ces périodes de transition. Donc, ça a donné lieu à pas mal de discussions au niveau français pour savoir comment appliquer ça. Et l'INAO a finalement défini des règles pour pouvoir accéder à cette période de transition qu'il faut absolument respecter avant l'application de la nouvelle réglementation. Ces règles, c'est 10 000 poulettes maximum par compartiment, donc ça ne change pas de la réglementation. En revanche, la densité intérieure, c'est 24 kg par mètre carré de surface utilisable, et là encore, on a un tableau de correspondance en nombre de poulettes. Ce qui est important, c'est qu'il faut un espace de plein air. Alors, l'espace minimal qui a été défini, c'est d'avoir un parcours extérieur d'une surface équivalente à l'espace intérieur du bâtiment. Ou si jamais ce n'était pas possible, parce que souvent, c'est des bâtiments qui sont, par exemple, au bord d'une route ou qui n'ont pas la surface à côté, avoir un minima 1 mètre de large sur la longueur du bâtiment ou sur une surface équivalente. Et il faut veiller à l'accessibilité de ce parcours. Et puis, j'ai rajouté attention au délai de conversion de ce parcours parce que c'est comme toute surface en bio, il y a un délai de conversion pour pouvoir arriver à être certifié bio. En plus de ça, les éleveurs vont devoir appliquer les autres dispositions de la réglementation actuelle, notamment s'engager avec un organisme certificateur, être notifié à l'agence bio, donc respecter l'alimentation bio, la limitation des traitements vétérinaires, bien sûr. Le respect du lien au sol et notamment justifier l'utilisation des fumiers sur des terres bio est quelque chose qui n'est pas toujours évident à faire sur des bâtiments existants, c'est ajouter des trappes entre le bâtiment et le parcours et il faut que la longueur combinée soit d'au moins 4 mètres carrés, 4 mètres par 100 mètres carrés de surface utile du bâtiment. Alors, ce n'est pas toujours évident pour des bâtiments existants qui ne sont pas faits pour avoir un accès à l'extérieur. Donc, on a négocié une petite période de transition. Si jamais il n'y a pas de taille suffisante qui respecte ça, il va y avoir des sanctions graduelles par l'organisme certificateur jusqu'à fin 2022 ou 2023 s'il y a un. Voilà, bon, c'est un peu compliqué. Si vous avez des questions par la suite, je pourrais y répondre. Mais c'est sûr que cette nouvelle réglementation bio apporte beaucoup de changements pour la partie poulette. Ensuite, concernant l'alimentation, donc les principales évolutions concernent déjà l'origine. Actuellement, dans la réglementation actuelle, on doit avoir 20% de l'aliment bio qui vient de l'exploitation ou de la région. Sachant qu'il n'y a pas de définition de ce qu'est une région et qu'il y a des applications très différentes au niveau européen. Pour certains, la région, c'est l'Europe et pour d'autres, on est plus sur des régions administratives. En France, la région, c'est provenant de la région administrative ou à défaut du territoire national. Dans la nouvelle réglementation, on passe à 30% issus de l'exploitation ou de la région. Il n'y a toujours pas de définition de la région et a priori, en France, on devrait rester sur la même définition. Actuellement, l'obligation, c'était 100% bio, mais avec une dérogation permettant d'utiliser 5% de matières premières protéiques non bio. Ça va évoluer puisque cette dérogation de 5% va perdurer pendant 5 ans après l'entrée en vigueur de la réglementation, mais seulement pour les jeunes volailles. Donc, c'est écrit jeunes volailles dans la réglementation. Et au niveau français, on en a discuté avec l'INAO qui devrait valider que que jeunes volailles, ça veut dire poulette. Donc, c'est au stade poulette, on devrait pouvoir utiliser encore 5% de matière non bio pendant 5 ans. Et enfin, il y a des règles donc, sur les céréales en conversion, où là, je vais aller vite, mais les pourcentages baissent de 5%. Enfin, donc, il y a des évolutions concernant les bâtiments et les parcours. Alors, tout d'abord, concernant les bâtiments, actuellement, il y a une taille maximum de 3000 poules par bâtiment, sachant que c'est bien 3000 poules par bâtiment qui est écrit dans la réglementation, mais c'est appliqué comme étant par salle d'élevage. Et c'est vrai que ben, même en France et dans beaucoup de pays, on n'a pas vraiment de bâtiments de 3000. On a plutôt des bâtiments de multiples de 3000 et on n'a pas de limite de taille de l'exploitation. La nouvelle réglementation devient plus précise sur ce point puisqu'elle dit que c'est maximum 3000 poules par compartiment. Donc, un compartiment, on peut en avoir un grand nombre dans un bâtiment et il n'y a pas de limite par bâtiment ou par exploitation, même si au niveau français, on aurait aimé qu'il y ait une limite pour l'image de la production bio. Et c'est précisé que les compartiments doivent être séparés par des cloisons pleines ou semi-pleines, des filets ou des grillages. Alors, c'est une parenthèse, mais je tenais à rappeler qu'au niveau français, il y a quand même une limite qui est recommandée par l'interprofession des œufs, le CNPO, et qui est aussi écrite dans la démarche œufs de France. Donc, cette limite, c'est 12 000 pondeuses maximum par bâtiment et 24 000 par exploitation. Et toute exploitation qui ne respecterait pas ça ne pourrait pas utiliser le logo œufs de France sur les boîtes des œufs. Voilà, je ferme la parenthèse. Je reviens à la réglementation européenne. Actuellement, il n'y a rien sur les vérandas ou ce qu'on peut appeler aussi jardins d'hiver. Et là, il y a un vrai changement avec la nouvelle réglementation. C'est que déjà, la réglementation ne parle pas de jardin d'hiver et définit ce qu'est une véranda. Et en gros, ça correspond à ce qu'on peut avoir en France, soit sous forme de véranda, jardin d'hiver. Et ce qui est très important et vraiment que les éleveurs doivent savoir pour tous ceux qui en ont, c'est qu'elles ne compteront plus dans la surface de bâtiment pour le calcul de la densité des pondeuses à partir de 2024. En revanche, c'est un sujet qui a été vraiment très discuté au niveau européen parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs, et notamment en filière ponte, qui ont des jardins d'hiver ou des vérandas. Donc finalement, après beaucoup de discussions, la Commission européenne a défini un nouveau terme dans la réglementation, c'est une annexe extérieure de bâtiment. Qui va permettre de prendre en compte cette surface dans le calcul de la densité d'élevage et des effectifs de pondeuses, mais à condition que cette annexe extérieure de bâtiment respecte un certain nombre de points. Et ces points, c'est qu'elle doit être couverte. Donc, il y a des jardins d'hiver qui ne le respectent pas. Donc, il faudra qu'elle soit couverte, il faudra qu'elle soit isolée, afin que les conditions qui y règnent ne soient pas celles du climat extérieur. Donc, c'est un vrai changement par rapport aux vérandas, aux jardins d'hiver en général actuellement. Il faudra qu'elles soient accessibles 24 heures sur 24 aux volailles et que ça respecte les longueurs de trappe. Donc, vers l'intérieur, c'est au moins 2 mètres linéaires par 100 mètres carrés de surface et vers l'extérieur, c'est 4 mètres par 100 mètres carrés. Donc, c'est vraiment important que les éleveurs en aient conscience parce que s'ils ne transforment pas ces vérandas actuelles, jardins d'hiver, pour qu'il n'y ait plus le climat extérieur à partir de 2024, ça ne pourra plus compter dans la densité, dans les effectifs, et ce sera un vrai changement. Enfin, pour terminer sur les bâtiments, donc il y avait actuellement rien sur les volières. Et là, la nouvelle réglementation encadre les niveaux des volières. Elle définit qu'il doit y avoir 3 niveaux maximum, dont le sol. Donc, en réalité, donc, ça fait deux niveaux en plus du sol. Ça, en revanche, il y a une période de transition pour l'appliquer parce qu'il y a beaucoup de volières en Europe. Et donc, la transition, c'est à partir de 2029 ou 2030 s'il y a un an de report. Les niveaux supérieurs, évidemment, doivent être équipés d'un système efficace d'évacuation des effluents d'élevage et la conception des volières doit permettre aux pondeuses de bouger facilement et d'accéder facilement au parcours extérieur. Et enfin, donc, en ce qui concerne les parcours extérieurs, on a beaucoup œuvré pour qu'il y ait des caractéristiques supplémentaires dans la réglementation parce qu'on considère que ça fait partie c'est une partie importante de l'image de la bio et que les volailles aillent vraiment dehors. Donc, la réglementation actuelle dit que les volailles doivent accéder à l'extérieur au moins un tiers de leur vie. C'est conservé cette règle-là, mais la nouvelle réglementation précise que les volailles doivent accéder à l'extérieur dès le plus jeune âge. Et on a d'ailleurs l'obligation nouvelle en poulette. Et en France, en application de cette obligation que les volailles sortent dès le plus jeune âge, a priori, le guide de lecture de l'INAO va dire que les pondeuses doivent sortir à 25 semaines au plus tard. C'est comme en production label rouge en France. Et enfin, il n'y avait pas de critères spécifiques sur les espaces de plein air. Là, ce qui est rajouté, c'est qu'ils doivent être principalement couverts de végétation avec une grande variété de végétaux. Et à partir de 2029 ou 2030, si c'est reporté, il y a des éléments sur le rayon maximum du parcours par rapport aux trappes de sortie. Donc, la référence, c'est 150 mètres. C'est vraiment pas beaucoup, mais sachant qu'on peut aller jusqu'à 350 mètres s'il y a des abris contre les intempéries et les prédateurs qui sont répartis à intervalles réguliers sur toute la superficie du parcours avec un minimum de 4 abris par hectare. Donc, c'est assez précis. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être assez claire. Vous me direz si c'était le cas, sinon je répondrai à vos questions. En synthèse, c'est vrai que ça apporte beaucoup de nouvelles contraintes pour les éleveurs, pour les OP, les fabricants d'aliments, on va en parler. C'est assez difficile de s'y retrouver au niveau calendrier. On imagine qu'il va y avoir un report d'un an. Et puis, il faut bien comprendre aussi qu'il y a différentes périodes de transition possibles. Ça va apporter beaucoup de questions techniques à résoudre. Donc, on va en parler, l'aliment 100% bio, les poulettes en plein air, la gestion des plannings de poulettes et aussi forcément un surcoût de production qui sera répercuté jusqu'au consommateur avec la question de quel impact sur le marché et le développement de la production. On espère évidemment que cette nouvelle réglementation, ces nouvelles contraintes ne vont surtout pas freiner le développement de cette production. Et puis, même si on parle beaucoup de contraintes, il y a quand même des éléments à valoriser au milieu de tout cela. Il faut toujours chercher le positif. Et donc, on pourra valoriser le fait que la production tend vers le 100% bio, avec a priori moins de dérogations, plus de bien-être à valoriser. Ça, c'est une réalité, avec l'accès au parcours des poulettes, des perchoirs, et donc une meilleure image de la bio normalement. Voilà.
Okay, merci beaucoup Marie pour ces éclairages sur un sujet très complexe. On va approfondir ce sujet avec Denis Paturel qui est éleveur de pondeuses. Donc Denis, vous êtes aussi consultant, membre du CINALAF et à la commission réglementation bio de l'INAO. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des conséquences technico-économiques en fait de cette réglementation? Et puis si vous avez un peu de temps aussi, nous rappeler, je sais que vous êtes engagé par ailleurs dans pas mal d'actions professionnelles dans la filière, donc si vous voulez nous en toucher un petit mot.
D'accord, oui, Arthur, pas de souci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Denis Paturel, coureur et coach d'Arbor. Donc, effectivement, je suis administrateur là, en tant que suppléant d'un adhérent. Donc, je suis également administrateur. Je siège à l'INAO, à la commission d'alimentation et de la culture bio, et président de l'interprofession régionale bio en Bretagne, initiative bio Bretagne. Avec mon époux, on a démarré la production de pondeuse bio en 1993. Et maintenant, c'est mon fils qui la gère, Jérémy. Donc, c'est l'ERL Paturel Jérémy. Donc, je suis toujours un peu avec lui, mais c'est lui maintenant le patron. Nous avons deux bâtiments distincts de 2 fois 3000 poules chacun. Donc, sur deux sites différents, à 2 km, on a 12 000 poules en tout, mais sur deux bâtiments de 6 000 poules de 2 fois 3000. Au sol non volière, et nous habitons en bord de mer. Nous avons 13 hectares de terre et donc tout est converti à la bio depuis 1994, avec des compléments de plans d'épandage chez des voisins également qui sont tombés. Je ne vais pas trop revenir sur. Marie a été sur une relation complexe, ça a valu beaucoup d'heures de réunion à l'INAO. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des éleveurs, effectivement, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui pointent au vu de l'évolution de la réglementation. Les questions se posent, est-ce qu'il y aura de la poulette bio pour tout le monde, avec l'évolution très forte du cheptel de pondeuses en France. On voit bien que la production de poulette bio ne va pas être simple. La question est ensuite, quel va être l'impact des coûts de production avec cette nouvelle réglementation. On sait qu'on va avoir des surcoûts poulettes lié à cette évolution. Il y aura lié au fait que le sexage in vitro des œufs, vous savez qu'il va être rendu obligatoire, puisque la destruction des poussins mâles ne sera plus permise. Et l'évolution de l'aliment 100% bio également, qui aura un impact tarifaire. Et probablement accompagné, on peut s'attendre peut-être à une régression aussi légère soit-elle, mais des performances techniques. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on est en train de chiffrer avec l'Italie. Donc, il y aura une réunion prochainement pour ça, pour donner donc des indicateurs de coûts de production. La grosse crainte des producteurs et du groupe de producteurs dans lequel je siège au niveau de la CFA est de savoir comment on va pouvoir répercuter ces coûts de production à l'aval. Est-ce que les agents de distribution, les magasins spécialisés vont être d'accord? Comment va réagir le consommateur? Dans le cadre économique compliqué qu'on vit aujourd'hui, sanitaire et compliqué, et économique compliqué, comment peut arbitrer le consommateur sur les produits, même si haut de gamme, avec le prix? Tout ça, ce sont des grosses questions. Un certain nombre d'éleveurs également ont été interpellés sur aujourd'hui l'évolution rapide de l'élevage, avec le lien au sol qui n'est pas forcément toujours respecté sur les terres des éleveurs, même s'il y a des surfaces avec la possibilité de faire des sociétés bis n'ayant pas de terre. Donc, on délègue le lien au sol carrément à son fabricant d'aliments. Donc, il faut aussi trouver la matière première. La taille des élevages aussi peut poser question. Marie, tout à l'heure, a fait état du fait que À l'interprofession, on a réussi à mettre une limitation au niveau de la France, au niveau de la taille des élevages, avec sous un même toit limité à 4 parquets de 3000 poules, donc 12000 poules par bâtiment, et maximum 2 bâtiments par exploitation. Or, certaines organisations, certaines OP, ont interprété ce texte en mettant 2 bâtiments de 2 codinuav, deux entités épidémiologiques différentes qu'ils considèrent comme bâtiments, bout à bout, reliés par un magasin central. Et donc, on a en toiture continue, on a des bâtiments de 24 000 poules. Et ça, même si réglementairement c'est possible, hein, vous avez compris tout à l'heure les propos de Marie, d'un point de vue éthique et d'un point de vue de la bio, certains opérateurs, peut-être demain, auront du mal à valider ça. La réglementation ne va pas changer tous les 4 ans. Mais nos clients finaux, qui sont la GMS pour une très grande partie de nos volumes, elle, vous savez très bien qu'elle peut mettre en place des cahiers des charges internes. Et demain, est-ce qu'on ne peut pas voir fleurir des cahiers des charges qui seraient un peu restrictifs sur la taille des élevages, sur le fait des volières, etc. Donc c'est ça, tout ça, ce sont des questionnements aussi que certains éleveurs se posent. Les inquiétudes des éleveurs... c'est tout à l'heure, j'ai dit pour la poulette, les coûts de production, voilà les grosses questions qui sont aujourd'hui posées. Et juste pour ne pas mobiliser la parole trop longtemps, tout à l'heure, Marie a fait état du marché. Effectivement, en 2019, on avait un marché qui a été exceptionnellement boosté par la progression des volumes avec plus de 20%. Depuis le début de l'année, enfin, l'an dernier, n'oublions pas qu'en juin, juillet, août, on a eu un coup de chauffe quand même sur les œufs bio avec. Momentanément sur un trimestre les volumes d'œufs bio qui étaient en débordement par rapport au marché, un marché qui progressait beaucoup mais où la production allait plus vite. Et donc ces volumes d'œufs bio ont été vendus en œufs de poule plein air pour une partie. Il y a des réformes de poules bio qui ont été anticipées pour avoir des vides sanitaires plus longues et même des bâtiments, des lots bio qui ont été déconvertis en bio en cours de vente pour finir en poule plein air standard ou en poule au sol. Toutes ces inquiétudes-là ont été gommées à la rentrée de septembre de 2019, puisque ensuite, fort heureusement, le marché s'est bien comporté et donc la production s'est écoulée correctement. En parallèle de ça, la production a continué à se développer, peut-être à un rythme moins soutenu qu'avant, mais toujours du développement quand même. Et début 2020, ici, on avait à nouveau des signes d'inquiétude, de débordement de la production, qui allait conduire à des mesures de restriction de production telles que je vous les ai annoncées en 2019, des vides sanitaires allongés, abattage de poules anticipées, des déclassements de l'eau. Certaines OP étaient en train d'envisager ces actions. Est arrivé le Covid, malheureusement pour tous, mais qui a été un peu salutaire pour le marché des œufs, qui a été très 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 sollicité. Et de nouveau, aujourd'hui, on se retrouve avec un marché qui est lourd dans les œufs bio, parce qu'il y a beaucoup d'offres. Et même si le marché, moi j'ai les chiffres du panel Nielsen, qui est un autre panel de IRI, si on prend les 9 premières semaines de 2020 comparé aux 9 dernières semaines avant le 16 août, hein, donc les 9 semaines avant le 16 août comparé aux 9 premières semaines de l'année 2020, le marché est en régression en volume de près de 1%. Alors 1%, ce n'est pas énorme, mais on peut quand même se poser la question de comment va évoluer le marché, notamment avec les évolutions de coûts de production. Donc voilà, et sinon, il va bien falloir qu'on s'adapte aux nouvelles exigences, on n'aura pas le choix. Voilà ce que je peux dire et je peux répondre aux questions. Bien sûr, s'il y en a, il n'y a pas de souci.
En effet, j'ai une question là d'une participante qui voudrait savoir comment évoluent les prix de reprise aux producteurs.
J'entends pas bien.
Ouais, on vous entend pas super bien non plus, mais donc j'ai une participante qui aimerait savoir comment évolue le prix de reprise aux producteurs.
Alors moi avec mon fils, nous on travaille en direct en lien avec un centre de conditionnement directement, donc on est en contrat de reprise. Donc, on achète nos poulettes, on achète nos aliments, etc. Contrairement à beaucoup de nos collègues éleveurs qui sont en contrat d'intégration, nous, pour le moment, les contrats de reprise n'ont pas bougé. Mais, bien entendu, la question va se poser quand on va connaître les évolutions de coûts de revient et quand tout ça, ça va être en application. Parce que si on prend les contrats de reprise aujourd'hui, globalement, ils sont indexés sur l'aliment et donc ne seraient pris en compte qu'une partie des... Tels que sont rédigés les contrats aujourd'hui, ne seraient pris en compte qu'une partie de l'évolution du coût de production uniquement par l'aliment. Et donc, si ça ne devait pas évoluer, il y aurait un reste à charge à la charge des producteurs. Bien entendu, qui ne sera pas possible.
Et la participante précise, puisque en effet, les prix semblent baisser en GMS.
Aujourd'hui, il y a malheureusement, alors ce n'est pas forcément l'objet de la réunion, malheureusement aujourd'hui, les GMS sont très, 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 très violentes sur les négociations commerciales. Et il y a des grandes enseignes de la distribution qui ont demandé particulièrement des baisses de prix sur les œufs bio. Et certains metteurs en marché ont accepté ces baisses de prix. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça pose problème pour les temps à venir.
OK. Alors, j'ai une autre question d'un participant qui aimerait avoir des précisions sur les spécificités du stade poulette pour la définition jeune volaille dans le cadre de l'alimentation 100% bio. Mais ça s'adresse peut-être plutôt à Marie.
C'est Marie, oui.
Oui, que dire de plus que ce que j'ai dit. En fait, donc la réglementation prévoit qu'il y ait 5% non bio pour les jeunes animaux et la réglementation n'en dit pas plus. Donc, c'est à chaque État membre de définir ce qu'est un jeune animal. Et on a discuté avec l'INAO, on a proposé que ce soit le stade poulette en entier qui soit reconnu pour cette définition jeune volaille. Et l'INAO l'a prévalidé lors d'une réunion commission réglementation et devrait le valider prochainement. Et donc, ça paraîtra dans le guide de lecture. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore définitif. Mais la Commission européenne avait, oui, a priori, c'est 18 semaines, mais une poulette... une poulette peut être transférée avant 18 semaines. Donc, a priori, ce serait le stade poulette, tant que c'est en atelier poulette.
D'accord. Donc, j'ai encore une autre question. Pensez-vous que les couvoirs actuels vont pouvoir répondre à la demande de poussins bio ? Question piège.
Denis Paturel, donc je ne peux pas répondre précisément à la question. Donc on a bien sûr avec le Sinalaf, on a choqué les pouvoirs. Aujourd'hui, c'est compliqué pour eux d'y aller tout de suite parce que donc ça fait quand même, bon, même si le nombre de poules pondeuses bio en France a beaucoup augmenté, ça vu la diversité des souches. Par couvoir. Je pense qu'ils devront y aller un jour, mais à ma connaissance, même s'ils y travaillent, il n'y a pas de grandes avancées à ma connaissance aujourd'hui pour le moment. Marie, tu as peut-être des informations complémentaires.
Disons que ça pose des vrais problèmes techniques par rapport à la gestion de la lumière, des problèmes sanitaires parce que même si en général avec le plein air, nous on défend le mode d'élevage plein air, on l'a démontré avec des maladies comme l'influenza aviaire, il n'y en a pas forcément plus en plein air, mais le stade repro d'un point de vue sanitaire est un stade très sensible parce que si jamais les repros attrapent par exemple des mycoplasmes sur les parcours, ils peuvent les transmettre à la descente. Et un repro, ça fait vraiment beaucoup d'animaux derrière. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas très envie de mettre les animaux dehors. Il faut voir combien il faudrait de repro. Finalement, il en faudrait très peu pour répondre à la demande de la filière. Donc, tout le monde ne le ferait pas forcément. Et à mon avis, ils y réfléchissent, surtout si ça va devenir une obligation dans 15 ans. Mais pour l'instant, ce n'est pas forcément leur priorité, à mon avis.
Ok, bon, merci en tout cas pour ces présentations. J'ai une autre question, mais il faut enchaîner, donc si on a un peu de temps à la fin, on y reviendra. Donc on va maintenant laisser la parole à François Boucher, qui est responsable aliments bio du Moulin du Poher, donc 100% bio à Carré. Donc, François, si vous voulez bien nous présenter un peu la stratégie que vous mettez en place pour ce qui est de l'aliment pondeuse bio. Et donc, il me semble que vous avez. Donc, c'est Sarah Poirot, votre collègue, qui précisera les conséquences zootechniques de cette même réglementation.
Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ?
On vous entend très bien.
Bon, parfait. Donc, alors, on va aujourd'hui donc répondre à votre invitation, dont je vous remercie par ailleurs. Donc, aborder la question de manière assez rapide, mais pour présenter, je veux dire, les conséquences majeures de cette évolution sur la partie alimentation des poulettes et des pondeuses. Donc, on va le faire en deux temps. Donc, après une petite présentation rapide de Moulin du Poer, donc Sarah Poirot, donc qui est chef produit volaille chez Provigny France, donc vous indiquera les conséquences zootechniques du nouveau règlement. Donc, pour la partie poulette d'un côté et pour la partie pondeuse de l'autre. Et donc, je vous donnerai au niveau de Moulin du Poer, donc les conséquences que l'on imagine sur nos approvisionnements en termes de matières premières, afin que vous puissiez avoir un ordre d'idée des conséquences pratico-pratiques de ces évolutions. Alors, pour commencer, donc une petite présentation rapide de Moulin du Poer pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas l'entreprise. Donc, Moulin du Poer donc est une usine qui est spécialisée dans la fabrication d'aliments pour tout type d'animaux élevés sous mode de production biologique depuis 1996. Donc, on a une certaine antériorité dans cette filière. Donc, on produit à peu près 50 000 tonnes d'aliments par an, hein, voilà, sur la zone d'activité Grand Ouest. Alors, pour faire simple, vous prenez une ligne qui se situe à l'ouest de La Rochelle-Le Mancamp et vous avez à peu près notre zone d'activité. Donc, nous sommes 15 personnes sur le site, donc 3 équipes pour fabriquer les aliments, hein, donc dont une équipe de nuit. Donc, on fabrique des aliments qui sont complets et ou complémentaires, puisque vous savez, par exemple, que les aliments pour bovins ne sont jamais des aliments complets, mais toujours des aliments complémentaires, par exemple. Donc, les aliments sont présentés soit en farine, en miettes ou en granulés. Donc, les livraisons s'effectuent majoritairement hein, en vrac, hein, puisque bon, le gros des élevages locaux sont des élevages dimensionnés pour pouvoir réceptionner les aliments en vrac. Donc, bien entendu, la possibilité de faire du sac ou du big bag, hein, bien entendu. Donc, on travaille avec un transporteur spécialisé agréé Calimat, ce qui nous permet d'avoir des matériels, je dirais, conformes et en bon état. Donc, nous avons un site qui est agréé bleu-blanc-cœur, nous permettant de répondre à ces exigences particulières de cahier des charges qui rajoutent des spécificités au cahier des charges bio, hein, puisqu'on a les contraintes supplémentaires du bleu-blanc-cœur qui s'ajoutent. Donc, nos approvisionnements sont bien entendu régionaux par rapport à la notion de lien au sol, nationaux pour compléter ce que disait Madame Guyot tout à l'heure, et bien entendu internationaux, ne serait-ce que pour les vitamines. Voilà, donc l'usine est certifiée RCNA, donc Ocalim pour être clair et plus pragmatique. Nous avons également l'organisme de certification EcoCert qui nous suit depuis le départ pour contrôler et certifier nos productions biologiques. Et enfin, on participe activement au plan de contrôle mutualisé au Calimbio. Donc ça, c'est un plan qui permet à l'ensemble de la filière biologique de suivre ce qui se passe dans le monde des approvisionnements biologiques de façon à mutualiser les contrôles. C'est-à-dire que si un fabricant, quel qu'il soit, qui participe au plan de contrôle, découvre une anomalie importante de la part d'un ou d'une origine ou d'un fournisseur, ça permet de faire une alerte au niveau de l'ensemble de la filière. Donc ça c'est un bien pour l'ensemble des participants. Et nous sommes adhérents à Initiative Bio-Bretagne, ce qui nous permet de soutenir activement la production biologique régionale. Donc aujourd'hui, donc la notion de filière est quelque chose de très important, puisque nous, à Moulin du Poer, la filière ponte représente plus de la moitié de l'activité du site. Donc c'est une filière avec de forts enjeux, où nous avons des exigences zootechniques, et Denis Paturel le rappelait tout à l'heure, qui sont très élevées. Donc on comprend parfaitement les inquiétudes de nos clients aujourd'hui face à ces nouvelles évolutions qui vont arriver. Sans compter que, en plus de l'exigence, on va dire, standard, c'est-à-dire de base du cahier des charges réglementation européenne, nous avons souvent des cahiers des charges spécifiques et donc on a évoqué le sujet là tout à l'heure, de la part de certains de nos clients, et on en a de plus en plus, donc ça rajoute des contraintes aux contraintes. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, les conséquences en termes pratico-pratiques pour nous fabricants vont être importantes. Mais avant de parler des conséquences sur les matières premières, on va laisser Sarah vous expliquer en termes pratico-pratiques les conséquences que l'on peut attendre sur le plan nutritionnel pour les animaux. Donc Sarah, si tu veux bien prendre le relais pour la partie poulette et pondeuse.
Ok, merci François. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour à tous.
Bonjour, on vous entend bien.
Ok. Donc, je prends le relais de François pour vous parler un petit peu des possibles impacts zootechniques du nouveau règlement bio. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remettre un peu le contexte pour mieux expliquer en fait ces impacts. Donc aujourd'hui, en fait, dans la réglementation bio actuelle, on est déjà dans une situation compliquée au niveau de l'aliment, puisqu'on a différentes contraintes qui sont l'interdiction des acides aminés de synthèse, l'interdiction de certains additifs comme des enzymes, notamment des phytases, et toute une problématique au niveau de la disponibilité des matières premières qui nous contraint en fait à utiliser des matières premières.
C'est compliqué de te parler.
Un petit peu. François, on t'entend. François. Donc, je continue, qui nous contraint en fait à utiliser des matières premières un petit peu différentes du conventionnel, qui sont très souvent un petit peu moins digestibles pour les animaux. Et tout ça, en fait, ça crée un aliment où on a les nutriments qui sont un petit peu moins disponibles pour les animaux. Et notamment, la plus grosse problématique dans les aliments bio actuels et de demain, avec la nouvelle réglementation, c'est en fait la difficulté qu'on a et qu'on va avoir à apporter suffisamment d'acides aminés soufrés à nos animaux. Donc, pour rappel, les acides aminés soufrés, c'est la méthionine et la cystine, qui ont différents rôles, notamment au niveau de la constitution des muscles, des plumes, et qui rentrent aussi dans des réactions métaboliques diverses et variées. Donc aujourd'hui, en fait, on avait la chance de pouvoir utiliser 5% de matières premières conventionnelles concentrées en protéines pour nous aider justement à avoir suffisamment, ou en tout cas un minimum d'acides aminés soufrés. Demain, il va falloir trouver des solutions puisqu'on n'aura plus le droit d'utiliser ces 5% de matières premières conventionnelles qui, bien évidemment, n'existent pas en bio. Sinon, ce serait trop facile. Donc, je veux bien que vous passiez la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, si on regarde ce qui va se passer en poulette et en pondeuse, on va déjà regarder en poulette, sachant que, comme ça a été précisé avant, on attend la décision de savoir si la poulette sera bien considérée comme un jeune animal. Ici, je suis partie du principe que la poulette était concernée par les aliments 100% bio. Donc, comme je l'ai précisé, demain, il va falloir trouver des solutions et on va probablement avoir un déficit en acides aminés soufrés pour nos poulettes. Qu'est-ce que ça va engendrer sur les aliments ? Et bien, en fait, pour contrebalancer ça, la seule solution, ce sera d'augmenter significativement la protéine de l'aliment. Et ce ne sera même pas suffisant, en fait, pour apporter assez d'acides aminés soufrés, puisqu'on n'aura pas des matières premières aussi concentrées qu'avant. Les conséquences de ça, c'est deux choses, probablement une baisse des performances, comme l'a évoqué Denis, et également des rejets azotés beaucoup plus importants et donc un impact environnemental non négligeable. Si on s'intéresse aux performances concernant les poulettes, aujourd'hui, quand on fait de la poulette, on veut avoir un poids cible avant le transfert en bâtiment de pondeuse pour s'assurer d'avoir des animaux en bonne forme et prêts à partir en ponte. Demain, si on a des carences en acides aminés soufrés, ça va être beaucoup plus difficile à faire. Deuxième chose, on risque d'avoir une dégradation de l'intégrité digestive, puisqu'en fait, si on augmente la protéine dans l'aliment, les animaux, ça va dégrader en fait les fientes des animaux qui vont être beaucoup plus liquides. Et quand on a ce phénomène, on a très souvent un lessivage en fait du tube digestif, qui va entraîner une fuite de nutriments. Et ces nutriments-là ne pourront pas être utilisés par les animaux. Troisième chose, si les fientes sont dégradées, on peut avoir aussi un impact sur le confort des animaux, puisque les animaux vont évoluer sur une litière beaucoup plus dégradée qu'habituellement. Et je voulais aussi vous montrer que tout ça va nécessiter des adaptations de nos programmes nutritionnels, Et qui dit adaptation, dit forcément surcoût économique. Si on passe à la phase pondeuse, est-ce que vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît? Donc, en ponte, on a la même problématique, mais qui est cette fois un peu plus exacerbée, puisque la pondeuse a des besoins très spécifiques en acides aminés soufrés par rapport à son par rapport à sa production d'œuf. Donc là, en fait, on va avoir une difficulté encore plus importante, en fait, à lui apporter suffisamment de méthionine. Et donc, il va y avoir des conséquences au départ un peu similaires par rapport à la poulette, donc une baisse de performance et des fientes dégradées. Et quand on parle de baisse de performance, on va avoir probablement une diminution de la production d'œufs. Également une augmentation de la consommation d'aliments, puisqu'en fait on sait que des poules qui sont en déficit de méthionine vont avoir tendance à surconsommer l'aliment pour essayer de combler ce manque. Donc finalement elles vont produire un petit peu moins d'œufs en consommant plus, donc il va y avoir un surcoût. En termes de calibre, on peut s'attendre à une petite baisse. Et dernier sujet, en termes de comportement, on risque des animaux qui sont en déficit nutritionnel, ils vont avoir tendance à se piquer, à aller chercher en fait les acides aminés soufrés qui leur manquent chez leurs congénères, et notamment au niveau des plumes. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des phénomènes de piquage importants qui se développent dans ces conditions. Donc, pour clôturer ma partie, finalement, on va devoir s'adapter d'un point de vue nutritionnel. Peut-être qu'on ne trouvera pas toutes les clés, mais en tout cas, on va avoir véritablement une augmentation du coût alimentaire à l'œuf. Et donc, je laisse la parole à François pour vous parler des contraintes sur les matières premières.
Ok, donc alors… Monsieur Boucher, juste, j'ai deux questions. Elles sont pour vous, je pense. Donc, l'une d'entre elles, c'est les additifs naturels utilisables en bio, mais non bio, eux-mêmes, pourront-ils être utilisés dans le cadre de l'alimentation 100% bio?
En fait, pour toutes ces questions très précises sur la partie réglementation, aujourd'hui, je ne vais pas me faire de vin, donc je vais simplement botter en touche en disant que nous attendons, comme tout le monde, les nouvelles réglementations précises, de façon à pouvoir répondre précisément à la question. Donc, ce n'est pas une réponse de Normand, ce n'est pas une fuite en avant, c'est simplement pour ne pas vous donner une réponse qui serait potentiellement erronée. Alors, deux éléments de réponse quand même qui sont importants. Un, ne pas confondre les matières premières d'origine agricole, qui elles sont très clairement ciblées par le dossier, donc de tout ce qui n'est pas classé dans le cadre des matières premières d'origine agricole. Il ne faut pas confondre, hein, c'est quand même deux choses différentes. Okay. Donc, ceci étant dit, ça permet de bien recibler cette question-là.
D'accord. Donc, j'en ai une deuxième. Qu'en est-il des autres ingrédients non bio qui sont utilisés en alimentation, comme les levures?
Ben, encore une fois, c'est pareil. Ce ne sont pas des matières premières d'origine agricole. Donc, il faut attendre d'avoir les parutions des textes pour pouvoir vous répondre de manière officielle. Parce qu'après, les levures, vous avez des levures qui sont produites sur support MGM, d'autres sur support non MGM. Donc, c'est un peu technique pour la question d'aujourd'hui. Donc, attendons d'avoir les textes pour pouvoir répondre précisément.
Merci de votre réponse. Du coup, je vous laisse poursuivre.
Alors, donc, pour faire, je dirais, donc une prospective, en tout cas pour ce qui concerne la partie pondeuse, filière ponte, à notre niveau. Donc, nous, les conséquences vont être très claires. Hein, donc, évidemment, comme on le disait, donc sous réserve d'application au 1er janvier. Hein, donc, si c'est décalé d'un an, bah, évidemment, ce sera dans un an. Donc, mais la disparition du gluten de maïs sera vraiment le fait marquant, je dirais, pour nous, les fabricants bio, puisque jusqu'à preuve du contraire, les fabricants actuels de gluten conventionnel, aucun ne proposera du gluten de maïs bio à partir du 1er janvier 2021 et 2022. On n'y est pas encore, donc difficile de répondre à cette question-là. Mais la conséquence sera celle-là. Alors, nous, à notre niveau, en termes de filière ponte, on aura une suppression pure et dure et simple de l'utilisation des protéagineux pour des questions simples et évidentes de prix, de teneur insuffisante en protéines et de profil d'acides aminés, comme vient de le dire Sarah, qui ne sont pas un profil recherché pour la filière ponte. En tout cas, pas l'idéal. Donc ensuite, nous aurons forcément une forte augmentation des matières premières biologiques concentrées en protéines, dont le tourteau de soja fait partie. Donc nous aurons une augmentation de nos consommations de tourteau de soja, Donc, comme le disait Sarah, il faut augmenter les niveaux de protéines des rations, donc forcément aller chercher des matières concentrées et dont le soja fait partie. Donc, le maïs, ça, c'est simplement à la marge, mais c'est pour vous donner une petite conséquence. Ça, c'est pour nos amis agriculteurs. Donc, on devrait aller chercher un peu moins de maïs dans les formules, puisque le maïs, comme vous le savez tous, est moins concentré en protéines qu'une céréale à paille. Donc, les logiciels de formulation iront chercher un peu plus de céréales à paille que de maïs pour des questions évidentes de teneur en protéines. Donc, on risque d'avoir des consommations de maïs un peu inférieures demain qu'aujourd'hui. Donc, voilà. Ensuite, le lien au sol. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, l'impact des rendements régionaux et nationaux va être plus important qu'aujourd'hui, je dirais, donc sur les notions de qualité des céréales régionales. Donc, attention à ça. Ensuite, la baisse de la part du C2. Alors, comme disait tout à l'heure, donc, donc effectivement, on va passer de 30 à 25%. Mais par contre, ça représente une baisse en termes de consommation de 17%. C'est beaucoup, c'est très sensible hein, pour la valorisation de nos amis agriculteurs. Il y a parfois des années où vous avez beaucoup de conversions. Il n'est pas évident que l'ensemble de la filière bio puisse valoriser l'intégralité du C2 produit. Donc, ça fait partie des conséquences. Enfin, nous irons chercher des nouvelles matières premières biologiques riches en protéines. Donc ça, je dirais, chaque fabricant travaille sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, on ne va pas vous trahir tous nos secrets. Donc ça fait partie des essais que l'on a en place à l'heure actuelle et de la recherche que l'on a au niveau du groupe. Donc, et enfin, je pense que c'est la conséquence directe, je dirais, donc pour nos clients, ce sera une augmentation malheureusement du coût des aliments, puisque une augmentation directe des niveaux de soja bio va entraîner de facto une augmentation des coûts des aliments, même si au niveau performance, comme le disait Sarah, il n'est absolument pas dit qu'on arrive à maintenir strictement les mêmes performances.
Est-ce que donc, là, tout cela à l'heure actuelle, vous avez déjà des gammes 100% bio? Est-ce que vous avez fait des essais ou...
Oui, bien sûr, mais évidemment, tout cela, on ne va pas vous donner les résultats à l'instant T, puisqu'on a des essais en cours sur des longues durées. Mais on a des tendances, oui, bien entendu, c'est clair. Donc, à contrario de ce qui a pu être dit parfois par des organismes publics, les conséquences technico-économiques sont non négligeables. Voilà, ça va se traduire de manière significative au niveau des producteurs, hein, c'est clair. Donc forcément, des coûts de revient, comme le disait Denis tout à l'heure, il va falloir que la filière compense d'une manière ou d'une autre pour que les producteurs puissent continuer à travailler de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, et enfin, pour nos amis producteurs de céréales et surtout de protéagineux, donc attention aux assolements, puisque les protéagineux, alors, je redis bien, je remets ça dans le contexte filière ponte, seront nettement moins consommés dans ce cadre nouvelle réglementation qu'aujourd'hui. Donc les conséquences ne sont pas négligeables. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire pour nous fabricants, c'est que la nouvelle réglementation aura des impacts très significatifs. Donc ces contraintes entraîneront des baisses de performance en élevage. Alors, plus ou moins significative. Donc, ça, tout dépend des niveaux zootechniques où vous vous situez aujourd'hui, mais il y aura des conséquences. Elles ne seront pas neutres. Donc, et des hausses des coûts à tous les niveaux. Pour les productions végétales, il faut également s'attendre à une hausse prévisible des consommations de soja. Donc, au détriment des cultures, on va dire, habituelles de protéagineux, hein, qui resteront consommées pour des filières autres, dont je pense par exemple à la filière porcine, à la filière volaille de chair un peu, mais en pondeuse beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, on travaille bien entendu, comme vous le disiez tout de suite, donc pour préparer au mieux cette nouvelle réglementation. Nous avons mis en place des essais dans le cadre du groupe, avec certains de nos clients. Et donc, aujourd'hui, on a des idées assez précises sur ce qu'on sera capable de proposer avec des sélections de nouvelles matières premières. Mais ça fera l'objet de discussions avec nos clients. D'accord. Merci à tous pour votre écoute.
Merci beaucoup. Juste en conclusion, j'aimerais peut-être pour vous, Marie, en fait, donc du SINALAF, ce report probable Ce serait vraiment une aubaine, un ballon d'oxygène, non, pour se préparer?
Oui, c'est sûr. Pour les fabricants d'aliments, pour pouvoir mieux anticiper, se préparer, pour les éleveurs de poulettes aussi. Mais il faut avoir en tête qu'il y a quand même des organisations de production et des éleveurs en poulettes qui se sont préparés pour être prêts en 2021. Donc s'il y a un report, voilà, ça donne un peu d'air, mais ça va un peu mettre le bazar encore plus, à mon avis.
D'accord. Bon, ben écoutez, on est autant imparti. Je tiens à vous remercier tous pour la qualité de vos interventions. Et donc vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur le site Biophile et le détail des échanges dans le prochain numéro. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci d'avoir répondu présent. Au revoir.
Merci.
Merci à tous.
Merci.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.